France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piperis.
Produce get in the radio.
So far, change the radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, un jour en Israël ce soir.
And on Saturday, Israel welcomed home three more hostages, Sagi, Sasha and Yael.
C'était samedi dernier, le sixième échange otage contre prisonniers. Après les propos de Donald Trump sur le règlement du conflit, les déplacements de population et la création d'une riviera, après les atermoiements du Hamas et les menaces israéliennes, on avait craint que la trêve ne vole en éclats. Après 498 jours de captivité, Sacha Trupanov, 29 ans, Sagi Dekelchen, 36 ans et Yair Horn, 46 ans, ont donc été libérés, tandis que 369 prisonniers palestiniens sont arrivés dans la bande de Gaza à Ran Younes et en Cisjordanie à Ramallah. La première phase de la trêve qui doit s'achever le 1er mars a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et de 1134 prisonniers palestiniens. L'accord prévoit qu'elle permette au total le retour en Israël de 33 otages dont 8 décédés et la libération de 1900 détenus palestiniens. Mais chaque échange est rendu de plus en plus fragile et les négociations doivent reprendre sur de nouvelles étapes du cessez-le-feu. Bonsoir Daniel Scheck.
Bonsoir, madame.
Et merci d'être avec nous en ligne depuis Tel Aviv. Vous avez été ambassadeur d'Israël en France au début des années 2000 et aujourd'hui, vous êtes le conseiller diplomatique du Forum des familles des otages et disparus. On est à 500 jours ce lundi, c'est toujours un chiffre symbolique. Ce matin, des dizaines de personnes proches des otages ont défilé à Jérusalem en brandissant des portraits vers la résidence de Benjamin Netanyahou. Le temps presse, la situation est instable. Est-ce que à chaque nouvel échange, vous pousser un ouf de soulagement?
Ah oui, on peut dire ça, parce que les surprises ne manquent pas, parce que les fragilités ne manquent pas, parce qu'il y a, ce sont souvent des opérations plus complexes qu'on ne le pense, et plein de choses peuvent arriver pour faire capoter tel ou tel échange. Mmh. Cela dit, il faut quand même reconnaître que même si le stress et l'anxiété nous accompagnent depuis plusieurs semaines, tous les échanges ont eu lieu, tant bien que mal, certains dans des conditions totalement inacceptables, dangereuses d'ailleurs pour les otages et pour les équipes de la Croix-Rouge, et quelques-unes, comme celle de samedi dernier, qui se sont plutôt bien passées. Mmh. Je pense que c'était une bonne journée.
Alors, le comité international de la Croix-Rouge avait demandé aux belligérants de faire preuve de dignité lors des échanges. Et samedi dernier, les otages israéliens ont été de nouveau exhibés, même si ça s'est bien passé, comme vous dites. Ils ont quand même été exhibés autour d'un podium, entourés de militants armés cagoulés, forcés à prononcer un discours. Est-ce qu'on pourrait éviter ces cérémonies de libération ou est-ce que finalement, non, c'est pas possible et il faut les accepter?
Ben, on devrait pouvoir le faire, mais comment faire? Cette phase-là est entièrement entre les mains du Hamas, et le Hamas pense que ce genre de cinéma, d'ailleurs je ne comprends pas comment ils peuvent penser que c'est crédible, que quelqu'un croit véritablement que les otages quittent avec un sourire en remerciant leur geôlier pour 498 jours de souffrance. Mais nous sommes vraiment impuissants, malheureusement, devant ça. Il y a eu deux d'ailleurs, qui se sont déroulés pas seulement avec ce théâtre, cette mise en scène, mais dans des conditions sécuritaires impossibles, avec des masses de gens qui étaient vraiment à portée de main des otages, et nous avions véritablement peur pour leur sécurité. Donc là, les médiateurs sont intervenus, et la semaine dernière, nous avons vu que ça se passe plus dans le calme, mais oui. nous n'avons pas été épargnés de cette mise en scène, malheureusement.
Mais Daniel Scheck, Israël, à son tour, a joué un drôle de jeu samedi. Des photos de prisonniers palestiniens libérés ont été publiées par l'autorité pénitentiaire israélienne. Ils ont dû revêtir un sweatshirt avec l'étoile de David et ces mots « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas » inscrits en arabe. Fallait-il aller jusque-là ?
Non, je n'ai pas de mots plus positifs à dire sur cette démarche que sur la démarche des libérations.
Vous voulez dire que vous les renvoyez dos à dos, finalement, ça entretient quelque chose de malsain de toute façon.
Je pense que, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas en même temps critiquer les mises en scène du Hamas et faire à peu près la même chose de notre côté. C'est inutile.
Ça a été mal vécu par les familles des otages, ça, ou c'est votre parole, Daniel Scheck ?
C'est ma parole.
Alors, cette fois, les otages israéliens samedi dernier n'étaient pas squelettiques, contrairement à ce qui s'était passé la semaine précédente. Cette image qui renvoyait à la Shoah avait bouleversé l'opinion publique. Est-ce qu'elle a fragilisé cette image, le processus d'échange et donc la trêve ?
Ça a été un choc, il faut le dire, pour tout le monde. Et je pense que, à juste titre, c'est un choc qui a fait un peu une onde de choc autour du monde. Le fait que les otages, la semaine dernière, étaient en meilleur état, provient aussi du fait que, depuis quelques semaines, ils ont été beaucoup mieux nourris que pendant les longs mois de leur captivité. Ils ont tous souffert, tous, sans exception, ont souffert de famine, de sous-nutrition, malnutrition. Et depuis qu'il y a cet accord d'échange, les conditions se sont améliorées, sans doute, pour essayer de les montrer dans une condition meilleure, ce qui n'a pas marché pour les trois otages que vous avez mentionnés.
Et justement, après avoir vu ces images, certains ex-otages qui s'étaient tenus au silence depuis leur libération se sont mis à parler. Ils ont évoqué des supplices, la faim dont vous parlez à l'instant, la vie dans le noir des tunnels. De quelle manière leur témoignage change les choses ?
Je pense, enfin, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que l'un des effets de ces échanges, c'est que il y a maintenant moins de spéculation sur les conditions de détention et beaucoup plus de témoignages réels et ils sont choquants. Ils sont véritablement choquants et une preuve que le slogan que le Forum des familles des otages utilise depuis le début et en disant le temps presse, c'est pas une question de facilité, c'est une question de vie et de mort pour certains d'entre eux. Et c'est peut-être aussi une sorte d'outil pour faire pression sur toutes les parties prenantes pour accélérer peut-être le rythme des libérations.
Des libérations. Alors, il reste 14 otages à libérer dans cette première phase de la trêve, dont 8 sont donnés morts. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement au moment le plus délicat ?
Je ne peux pas faire une hiérarchie des moments délicats. Il y en a tellement. Chacun de sa manière, vous savez. L'anxiété, la peur pour ces familles. Il y a des familles qui ne savent pas. Si leurs proches sont vivants ou non.
Oui, il y a des familles dont les proches ont été donnés pour mort par le Hamas et pas par l'armée israélienne.
Oui, et il y a d'autres qui ne sont pas donnés du tout, où il n'y a aucun signe, aucune information depuis le 7 octobre 2023. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Il faut dire que la libération des otages ces dernières semaines a aussi apporté quelques preuves de vie sur certains otages sur lesquels nous étions dans le noir. Mais nous espérons évidemment qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, mais pour les familles, à la fois parmi les 33 de cette phase, mais il y a une deuxième phase qui n'a pas été conclue encore,
justement.
Où il y aura encore des otages vivants, beaucoup de corps d'otages assassinés, mais il y a encore des jeunes hommes vivants. Et pour eux aussi, le temps presse énormément, parce que même s'il s'agit de jeunes gens, a priori, dans une condition physique meilleure que les personnes âgées, ce sont, selon les témoignages, les otages qui sont traités de la manière la plus mauvaise. parce qu'ils sont soit des soldats, soit considérés par le Hamas comme des soldats, et ils subissent apparemment des tortures et des traitements vraiment terrifiants.
Bon, en tout cas, l'opinion publique israélienne, Daniel Sheikh, maintient la pression sur Benjamin Netanyahou. Les trois quarts des Israéliens, si on en croit les sondages, estiment que la libération des otages doit être une priorité absolue, mais la moitié pense que le Premier ministre traîne des pieds pour assurer sa survie politique. Et vous, qu'en dites-vous ?
Je suis certain qu'on aurait pu faire mieux, plus vite, qu'il y a eu des considérations étrangères à la, au bien-être des otages et de leurs familles qui ont dicté la lenteur par laquelle le gouvernement a traité cette affaire ces derniers mois.
Des considérations de politique intérieure, donc.
Oui, des considérations, peut-être pas seulement de politique intérieure, peut-être aussi des considérations militaires ou autres, même si je trouve ça un peu curieux, puisque les généraux sont parmi ceux qui pensent qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y avait aucun problème à conclure le même accord, d'ailleurs, dès le mois de mai 24. Mais bon, tout ça, c'est du passé, et maintenant, il faut regarder à l'avant. Et il faut maintenir la pression sur le gouvernement, espérer que les médiateurs, et notamment les États-Unis, l'administration Trump, qui a finalement fait la différence pour convaincre les parties à signer cet accord qui était sur la table depuis de longs mois déjà. Et donc, ce qui a manqué, c'est la volonté politique, et espérer que les États-Unis vont maintenir la pression pour la deuxième phase, comme ils l'ont fait pour la première.
Et ça peut modifier la suite du calendrier, l'entrée en force de Donald Trump et ses projets, notamment pour la bande de Gaza ?
Alors, moi, franchement, je ne me sens pas capable d'analyser les projets changeants tous les jours de Donald Trump sur l'avenir du Proche-Orient et de la bande de Gaza. Je n'ai pas les outils intellectuels pour le faire. Mais je vais dire une chose avec certitude, c'est que son engagement et l'engagement de ses conseillers pour conclure cet accord d'échange d'otages contre des prisonniers a été déterminante. Et donc, pour ce dossier-là, je lui serai toujours reconnaissant, et j'espère qu'il ira jusqu'au bout, parce qu'il y a encore des dizaines d'otages vivants et morts qu'il faut libérer.
Et après la phase 2 de la libération des otages, le Hamas veut un retrait total de la bande de Gaza. Et de son côté, Israël maintient sa promesse d'éradiquer le Hamas, soutenue par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Daniel Sheikh, qu'en dit le diplomate que vous êtes ?
Alors, vous faites bien de dire le diplomate, parce que ce n'est pas du tout et plus du tout du ressort du Forum des familles des otages.
Absolument.
Pour nous, nous avons un objectif, c'est de dissoudre. C'est-à-dire qu'avec le retour du dernier otage, c'est une organisation qui va disparaître.
Oui.
Le diplomate dit une chose très simple. Il faut être très ambitieux pour l'après-Gaza. Plus on sera ambitieux, plus il y a des chances que cela va faire une vraie différence.
Qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux aujourd'hui ?
Oui. Je veux dire par là qu'il ne faut pas se contenter de pacifier la frontière entre Gaza et les localités israéliennes de l'autre côté de la frontière, parce que si on se contente de ça, même avec les complications de qui va gouverner Gaza, etc., ce sera un cessez-le-feu temporaire. Il va durer quelques années peut-être, mais ça ne va pas tenir. Donc il faut y associer un accord israélo-palestinien plus large. Et cet accord israélo-palestinien, il faut le mettre dans un contexte régional qui comprendra tous les pays,
arabes.
Modéré.
Absolument.
Et je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger si on veut véritablement éviter une énième phase de guerre entre Israël et Gaza.
Et c'est sans doute aussi pour ça que les négociations ont lieu à Riyad. Merci infiniment, Daniel Sheikh, d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde ce soir. Ancien ambassadeur d'Israël en France, conseiller diplomatique du Forum des familles des otages et disparus. La suite, c'est une deuxième escale, cette fois en Australie. Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène chez les aborigène stigmatisée par les conservateurs en pleine campagne électorale. Et pour aller jusqu'à 19h, le trio du jour, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Canada, un match de hockey électrique.
Le Monde à 18h50 avec vous, Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir, on va parler de l'Arabie Saoudite, médiatrice en chef dans les grands dossiers internationaux comme la guerre en Ukraine ou à Gaza.
Et comme tous les lundis, la BO du Monde, Cyril Sauvageau.
Ce soir en Italie avec le phénomène Mahmoud, un jeune chanteur issu de l'immigration qui casse les codes de la variété italienne.
A tout à l'heure. La suite passe par la Turquie avec ce groupe cosmopolite à moitié français. Derya Dildirim et groupe Şimşek se plongent dans un répertoire de folk anatolienne et dans la tradition du rock psyché turc. Cool Hands est en playlist sur Inter. Change d'ambiance musicale, nous voici en Australie. C'est le reportage d'un jour dans le monde. D'ici à la mi-mai au plus tard, les Australiens seront appelés à voter pour les prochaines élections fédérales. La première préoccupation des électeurs, c'est le pouvoir d'achat. Et pourtant, l'opposition conservatrice, et plus particulièrement son chef de file, Peter Dutton, n'en parle pas ou presque, préférant s'en prendre à certains symboles et pratiques aborigènes. Depuis plusieurs années, elles ont été intégrées pourtant aux pratiques du reste de la société, comme autant de formes de reconnaissance envers ce peuple qui occupe l'île continent depuis plus de 60 000 ans, un peuple qui reste quand même victime régulièrement de discrimination et qui est marginalisé. Alors que représentent ces symboles pour les aborigènes? Pourquoi la droite australienne les prend pour cible? Notre correspondant à Sydney, Grégory Pless, tente d'y répondre.
Des chants et des musiques aborigènes, c'est ainsi qu'on célèbre le jour de la fête nationale, une date éminemment controversée en Australie puisqu'elle commémore le début de la colonisation britannique au Yaboun Festival. Organisé en plein cœur de Sydney, il célèbre les peuples et les cultures aborigènes et il s'ouvre tous les ans avec un rituel ancestral, le Welcome to Country.
Nous vous accueillons comme si vous étiez de notre famille. Nous vous étreignons comme des membres de notre famille alors que vous vous trouvez sur nos terres. Tout ce que nous vous demandons en retour, c'est que vous marchiez le pas léger et surtout que vous vous respectiez les uns les autres. Enfin, rappelez-vous que cette terre a toujours été et sera toujours une terre aborigène.
Le Welcome to Country, c'est donc un rituel de bienvenue, autrefois pratiqué entre les différentes communautés aborigènes mais qui depuis quelques décennies a également intégré le folklore national australien. Il est pratiqué sur les campus lors de la rentrée universitaire, dans les stades lors de rencontres sportives et en ouverture de nombreux autres événements publics. Pour Matty Doyle, qu'on vient d'entendre souhaiter la bienvenue aux festivaliers, ça n'est parfois rien de plus que de l'affichage, mais il estime que malgré tout, ces initiatives vont dans le bon sens.
Parfois, ça manque un peu de sincérité, mais l'important, c'est qu'il y ait tout de même cette volonté de reconnaître qui sont les propriétaires historiques de ce pays. Et puis, cela permet aussi d'éduquer les gens.
Mais ces petits pas symboliques vers la réconciliation, ils sont dénoncés depuis quelques semaines avec vigueur par la droite australienne. Peter Dutton, leur chef de file, souhaite non seulement que le gouvernement renonce à organiser ces cérémonies de bienvenue, mais il refuse également de s'exprimer devant le drapeau aborigène que l'actuel Premier ministre Anthony Albanese a lui pris l'habitude de faire flotter, tout comme celui représentant les peuples du détroit de Torres, à côté du drapeau australien lors de ses conférences de presse. Un usage vivement critiqué par Peter Dutton.
Nous sommes en train de diviser notre pays inutilement. Nous devrions témoigner du respect pour les drapeaux aborigènes et les habitants du détroit de Torres. Mais ils ne sont pas nos drapeaux nationaux. Et je crois que le Premier ministre crée beaucoup de confusion.
Avec un tel positionnement, le chef de file de la droite australienne suscite de la déception, voire même de la colère au sein de la communauté aborigène. C'est le cas, par exemple, de Tran.
Ça m'énerve, je ne comprends pas, parce que je ne pense pas qu'il y ait une raison valable pour que ces trois drapeaux ne soient pas affichés. Mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut travailler à l'avenir. Il a peut-être juste besoin d'être un peu plus éduqué.
Quelques mètres plus loin, Bill et sa tante Frida préfèrent carrément ignorer ce genre de provocation.
Ces Blancs peuvent se goberger tant qu'ils veulent. Ça reste notre pays. Ils ont essayé de nous éradiquer quand ils sont arrivés, mais ils n'y sont pas parvenus. Ces Blancs, et ils ne peuvent pas nous l'enlever, ils ont essayé de se débarrasser de nous. Ils ont essayé et ont échoué. C'est tout ce que j'ai à dire.
On verra bien s'il arrive à se faire élire.
Les élections fédérales, qui se tiendront au plus tard dans 3 mois, c'est évidemment ce qu'a Peter Dutton en ligne de mire. Mais pourquoi s'en prendre à des symboles qui font très largement consensus au sein de la société australienne, et ce alors que le prochain scrutin sera très largement dominé par la question du pouvoir d'achat? Pour le militant aborigène Thomas Mayo, c'est un moyen pour l'opposition de masquer leur absence de réponse sur le sujet.
Les peuples indigènes ne représentent que 4% de la population et de nombreux Australiens ne connaissent ni notre culture ni notre communauté, ce qui fait nous un bouc émissaire facile à pointer du doigt. L'idée, c'est de créer des divisions et aussi de faire diversion, parce qu'en matière de solutions, Peter Dutton n'a rien à proposer.
Cela suffira-t-il à la droite australienne pour revenir au pouvoir? Certes, elle a actuellement une courte avance sur les travaillistes dans les derniers sondages, mais ces derniers révèlent également qu'aucune des deux grandes formations politiques australiennes ne sera en mesure d'obtenir la majorité absolue.
Reportage signé Grégory Pless à Sydney. L'actualité passée sous les radars est récupérée par Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord en Grèce où les séismes font toujours la une.
Mais oui, ça fait près de 3 semaines que ça dure dans l'archipel des Cyclades où se trouve notamment l'île de Santorin. Le laboratoire de sismologie de l'université d'Athènes a enregistré entre le 26 janvier et le 9 février, rendez-vous compte, 14 000 tremblements de terre, la plupart de faible intensité, jusqu'à 5 tout de même sur l'échelle de Richter. Les écoles sont fermées au moins jusqu'à la fin de la semaine par précaution, pas de dégâts, pas de blessés, mais de l'inquiétude pour les locaux et des doutes pour les touristes qui ne viennent plus. Les bateaux de croisière, par exemple, ne font plus autant escale, alors que le tourisme, c'est le moteur essentiel de l'économie de ces îles. Hier, le Premier ministre a annoncé de premières mesures de soutien. Les entreprises vont pouvoir suspendre les contrats de travail jusqu'à début mars pour ne pas avoir à payer les salaires compensé par l'État à hauteur de 534 euros par mois seulement. Santorin et Amorgos ont été déclarés en état d'urgence.
Nous voici au Mali où une mine d'or s'est effondrée.
C'est malheureusement fréquent en Afrique de l'Ouest où les sites d'orpaillage illégaux sont très nombreux. Mais là, c'est l'ampleur du bilan humain qui effraie. Au moins 48 morts samedi, essentiellement des jeunes femmes, selon la police, dont une qui portait son enfant dans le dos. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Un drame qui illustre la misère dans laquelle vivent des millions de Maliens en marge des mines exploitées par des entreprises étrangères. Ils sont des milliers d'orpailleurs clandestin a tenté de trouver de l'or dans ces mines illégales, dangereuses, sans protection. Un problème pas vraiment traité par la junte militaire au pouvoir. L'économie de l'or représente un quart du budget national au Mali. Ajoutez à cela les dimensions géopolitiques et sécuritaires dans ce pays contrôlé en partie par des groupes terroristes.
Enfin, nous sommes au Canada avec un face-à-face mouvementé.
Ah oui, la guerre entre le Canada et les États-Unis a eu lieu aussi sur la glace ce week-end. Match de hockey samedi soir à Montréal, le premier en 9 ans entre les deux pays stars de la discipline. Et dans le contexte, une rencontre particulièrement tendue et même violente. Oh, say, can you see? Ça a commencé, vous l'entendez, par les huées d'une bonne partie des 21 000 supporters réunis au Centre Bell au moment de l'hymne américain. C'est devenu une habitude hein, lors des matchs de hockey ou de basket dans les championnats nord-américains ces derniers jours, où s'affrontent des équipes américaines et canadiennes. C'est depuis l'élection de Donald Trump, bien sûr, qui parle du Canada comme du futur 51e État. Et puis ensuite, pendant le match, avalanche de coups de poing. Les bagarres, ça fait partie du hockey, mais là, elles se sont enchaînées. À savoir que quand deux joueurs se battent, le chronomètre est arrêté. Et bien là, dites-vous qu'il y a eu 3 affrontements en 9 secondes de jeu seulement. À peine les arbitres avaient séparé les combattants qu'ils devaient de nouveau stopper la rencontre. Mais personne n'a vu le problème. Certains joueurs parlant même du meilleur match de hockey de leur vie. D'une grande soirée même pour la rivalité sportive entre les deux pays. Pour l'anecdote, les États-Unis ont gagné ce match 3-1.
Merci Kevin. Vous partez en passant par les États-Unis justement, par le Tennessee de Jill Scott Aaron, musicien, poète, romancier. Il est aussi un citoyen noir américain engagé et précurseur du rap. Me and the Devil, sorti en 2010. Bon début de soirée sur Inter. Jill Scott Aaron dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est avec Christian chez nous ce soir.
How dare you? The world has
changed. Christelle Rebière. Le 18-20.
Américains et Russes, Christian, doivent se rencontrer demain à Riyad. Mercredi, ce sera au tour du président Volodymyr Zelensky de prendre le chemin de la capitale saoudienne avant la tenue d'un mini-sommet arabe sur Gaza vendredi. Pourquoi l'Arabie saoudite semble-t-elle devenue soudain l'épicentre de la diplomatie mondiale ?
Écoutez Christelle, d'abord parce que le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, parle à toutes les parties belligérantes, ce qui dans la guerre en Ukraine n'est pas le cas des Européens. Le prince a toujours gardé d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, y compris en 2018, quand il était devenu un paria au moment de l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Après l'invasion russe de l'Ukraine, l'Arabie saoudite a fait le choix de ne pas rompre avec Moscou, refusant d'appliquer l'embargo énergétique contre la Russie. MBS et Poutine s'apprécient, comme en témoignent les fastes déployés lors de la dernière visite du chef du Kremlin en décembre 2023 à Riyad, la capitale saoudienne, où il sait qu'il ne sera pas arrêté et livré à la Cour pénale internationale, la CPI.
Par ailleurs, on connaît aussi la proximité de Donald Trump avec MBS.
Oui, sur son échiquier mondial, l'Arabie saoudite est une pièce maîtresse pour le président américain. Donald Trump voit le royaume comme un coffre-fort où il peut puiser abondamment pour vendre des équipements militaires made in USA. Et puis, dans le clan familial Trump, on connaît les relations amicales et d'affaires entre son gendre, Jared Kushner, et MBS, qui a investi plus de 2 milliards de dollars dans son fonds de gestion financière. Le prince qui aujourd'hui fait miroiter un investissement XXL de 600 milliards de dollars dans la tech américaine d'ici 4 ans. Une musique qui parle aux oreilles de Trump.
Entre le président américain, si j'entends bien, Vladimir Poutine et Mohamed Belsalman, il y a un point commun aussi, c'est le pétrole.
Oui, Christelle, les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite sont les trois premiers producteurs au monde. À rebrousse-poil de la lutte contre le dérèglement climatique, un sommet à Riyad réunissant les trois dirigeants consacrerait la suprématie de l'or noir. Trump veut faire de l'Amérique un hub énergétique et débrider les activités de forage des grandes compagnies pétrolières. Poutine, lui, veut exporter un maximum de brut pour compenser la perte du marché européen à cause des sanctions, tandis que MBS a besoin de vendre son pétrole pour financer ses grands projets comme Neom avec sa ville futuriste et sa station de ski sur la mer Rouge. Mmh. Au-delà des questions diplomatiques, un nouveau pacte pétrolier pourrait donc être conclu entre Riyad, Washington et Moscou.
Enfin, sur la guerre à Gaza, la diplomatie saoudienne est aussi en première ligne.
Oui, et encore une fois, à cause de ses bonnes relations avec le président américain, ce qui est essentiel au moment où le monde est suspendu à la moindre déclaration du locataire de la Maison Blanche ou de ses conseillers. Et puis, à côté de l'Égypte du maréchal Sissi, poids lourd historique de la région, eh bien MBS est le seul à pouvoir crédibiliser les solutions alternatives arabes au plan Trump pour Gaza, notamment sur le volet financier de la reconstruction. Il est peut-être aussi l'un des rares à pouvoir l'influencer dans une certaine mesure. MBS dispose d'un atout maître qu'il n'a pas encore joué, celui de la normalisation de son royaume avec Israël, ce qui lui donne un formidable levier d'influence qu'il compte monnayer très cher.
Christian Chéneau, le lundi, c'est la BO du monde avec Cyril Sauvageau.
France Inter, le 18-20.
Direction l'Italie, Cyril, où vient de s'achever le 75e festival de San Remo, la grand-messe de la chanson italienne. Parmi les têtes d'affiche de cette édition 2025, un habitué du festival, deux fois lauréat du concours, il s'appelle Mahmoud.
Et cette année, c'est en tant qu'animateur que Mahmoud est monté sur scène à San Remo. Mais l'an dernier, il était encore en compétition, déjà vainqueur à deux reprises en 2019 et 2022 de ce concours ultra populaire en Italie. Il présentait alors son dernier tube tout à gold avec sa chorégraphie devenue virale. Entre rap, R&B et variété italienne, ce jeune chanteur milanais de 32 ans est devenu, en quelques années, un véritable phénomène de société en Italie, l'équivalent transalpin d'un Stromae qui réunit les publics et les générations. Son double succès à San Remo l'a envoyé deux fois à l'Eurovision pour représenter l'Italie, prélude à une carrière internationale qui ne fait peut-être que commencer. Il y a quelques mois, de passage à Paris, Mahmoud a rempli l'Olympia. On a pu aussi l'entendre partager le micro avec la chanteuse belge Angèle sur ce duo bilingue.
Et de par ses origines, Mahmoud détonne dans l'univers encore assez conservateur de la musique italienne.
Un père égyptien, une mère originaire de Sardaigne, Alessandro Mahmoud a grandi à Milan, la capitale italienne de la mode et de l'industrie musicale. En guise de nom de scène, il choisit de prendre le patronyme de son père, Mahmoud. Il n'en faut pas plus pour lui coller une étiquette et faire de lui la cible de l'extrême droite. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. 2019, au moment de sa première victoire à San Remo, il s'attire les foudres de Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, qui s'empresse de tweeter qu'il aurait préféré voir gagner son adversaire, un chanteur italien plus traditionnel. C'est pourtant ce titre, Soldi, qui va catapulter Mahmoud au sommet du hit parade.
Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
Le procès en italianité ne durera pas bien longtemps. Le succès populaire de Mahmoud emporte tout. Son image, son style vestimentaire font des ravages sur les réseaux sociaux. Il devient bientôt l'emblème d'une jeunesse décomplexée, capable de se réapproprier les codes du hip-hop américain tout en assumant l'héritage un peu sirupeux de la pop à l'italienne.
Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fascine poi rovini la serata. C'è il palo quando arriva la retata. Ti chiedo se mi mata.
Dans ce pays dirigé par l'extrême droite, où la xénophobie est encore bien présente, le triomphe de ce jeune chanteur issu de l'immigration reste un exemple plutôt rare, mais contribue déjà à faire évoluer l'image que les Italiens se font d'eux-mêmes.
Mais on aime bien nous aussi en studio ce Mahmoud. Merci beaucoup, à lundi prochain Cyril.